Bien, il me semble qu'il soit 10 heures, donc bonjour pour cette nouvelle année, au moins trimestre de cours. Je rappelle, du point de vue des données, on va dire, chronologiques et calendaires, que le cours dure 2 heures, en général avec une pause de 5 minutes entre les deux parties, autour de 11 heures. Que d'autre part, à partir de la semaine prochaine, nous serons dans l'amphithéâtre Alpvax, pour quitter ce lieu certes prestigieux et grandiose, mais qui n'est pas, à mon avis, le plus favorable à une communication plus immédiate avec les personnes, les étudiants, les collègues ou les auditeurs qui sont ici. Donc nous irons à l'amphithéâtre Alpvax, ce sera bien indiqué. Et du point de vue du calendrier, nous aurons 2 blocs de 3 cours, chacun de 2 heures, le 24 qui est aujourd'hui, le 31 et le 7 novembre. Pas de cours le 14 et on reprend une série 21, 28 novembre et 5 décembre. Donc voilà pour l'organisation, sinon matérielle, mais spatiale et temporelle. Le thème du cours de cette année, vous l'avez vu, Textes sans frontières, 16e, 18e siècle, peut-être en écho avec des débats contemporains, mais ici, évidemment, fondé sur un type d'analyse qui va essayer de mettre en rapport des textes, des œuvres, avec les espaces, que ce soit les espaces de la production de ces textes, les espaces de leur circulation, diffusion, communication, ou les espaces de leur lecture, de leurs usages, de leurs appropriations. Je porterai donc une attention particulière à des textes qui ont franchi les frontières, soit les frontières des États nationaux dans lesquels ils ont été originairement écrits et publiés. Ils ont franchi les frontières soit que, dans leur langue originale, ils étaient élus au-delà du cadre national auquel correspond cette langue, par des lecteurs qui la connaissaient. Et là, on pourrait ouvrir une perspective sur quelles sont les langues qui ont été, entre 16e et 18e siècle, dominantes, connues en dehors même de leur lieu de parler, l'espagnol pour la 16e et au moins la moitié du 17e siècle, sans doute au cours du 18e siècle, l'anglais. Une sorte de géographie historique différentielle de la connaissance des langues, mais qui permet que des textes passent les frontières de l'espace de leur élaboration pour être lus dans leur langue en dehors de cet espace. Ou bien, intérêt fondamental qui est un leitmotiv de ces cours ou du séminaire, c'est grâce aux traductions que des textes peuvent passer les frontières, mais les traductions entendues toujours comme des interprétations, des appropriations, des relocalisations du texte. Dans le passé, la première des perspectives des textes qui franchissent les frontières mais lus dans leur langue originale, elle nous a souvent été présente avec les réflexions ou les études sur le Don Quichotte, et nous le retrouverons aujourd'hui dans la mesure où c'est un peu le texte qui sert de base continue à cet enseignement depuis qu'il a commencé. Pour ce qui est de la traduction comme manière de franchir la frontière, l'an dernier, peut-être ceux qui étaient là s'en souviennent, je l'avais porté l'attention pour montrer combien la traduction est toujours une forme d'appropriation, de transformation, de relocalisation. J'avais porté l'attention sur la traduction d'un texte espagnol de 1647 de Baltasar Gracián, El oráculo manual y arte de prudencia, traduit mais transformé puisque curialisé en 1684 en France comme l'homme de cour, alors que le mot cour, la référence à la cour, est totalement absente du texte original de Gracián. Donc un exemple quasi extrême de transformation du texte par sa traduction, puisqu'il est relocalisé comme un manuel du comportement à la cour, alors qu'en son origine, il est fondamentalement un texte qui porte sur la morale allo practico, comme dit Gratian, la morale pratique qui permet de vivre et survivre dans le monde de la chute, dans le monde d'après le péché originel. Donc cette attention sur ces textes qui ont franchi les frontières. Mais dans la perspective de cette chaire et de l'enseignement qui est le sien, la circulation des textes, même si c'est le terme que j'ai employé dans le titre, est toujours considérée comme une circulation des livres ou des objets, manuscrits ou imprimés, qui les portent. Contre peut-être une abstraction immédiate, j'y reviendrai, qui est celle de l'histoire littéraire classique ou de l'histoire de la philosophie, qui considère les textes comme des œuvres et seulement comme des œuvres, la perspective qui a toujours été celle de cette chaire est de considérer que les œuvres ou les textes ne circulent pas dans les airs comme des espèces immatérielles, mais sont toujours reçus, compris, lus ou écoutés par des lecteurs ou des auditeurs dans des formes matérielles qui sont celles de leur inscription, de leur circulation, de leur diffusion. Et du coup, la perspective qui a été la mienne, qui sera la mienne dans ce cours, est une perspective qui est fondée sur un double refus. Le premier refus, c'est ce refus de l'abstraction des œuvres, détachée de toute matérialité et de toutes les formes d'inscription et de circulation qui leur ont donné existence. On a donc là une inséparabilité entre le texte comme une production écrite, parfois orale, mais une production massivement écrite dans notre perspective d'historien, comme une production intellectuelle, une production esthétique, et donc qui suppose que l'on entre dans ces textes avec les instruments critiques de l'étude textuelle, mais inséparabilité entre cette définition des textes et des œuvres comme production symbolique et de leur support, des véhicules de leur transmission, à commencer, ce n'est pas la seule forme, mais à commencer par le livre manuscrit, mais plus encore, pour nous, entre XVIe et XVIIIe siècle, le livre imprimé. C'est une indissociabilité que nous avons souvent rencontrée dans des cours ou des séminaires préalables, puisqu'elle a été présente dans les horizons mentaux, dans les perspectives des hommes et des femmes des XVIe ou XVIIIe siècles. Entre XVIe et XVIIIe siècle, ce lien entre le livre comme œuvre et le livre comme objet a souvent été pensé à travers la métaphore chrétienne de l'âme et du corps. L'œuvre, le texte dans son existence textuelle comme étant l'âme de ce qui était incorporé dans une forme matérielle, le livre imprimé considéré comme le corps. Au XVIIIe siècle, cette indissociabilité est pensée avec d'autres catégories, par exemple les catégories qu'on trouverait chez Kant dans un texte fameux « Qu'est-ce qu'un livre ?» entre le discours, le livre comme discours qu'un auteur adresse au public et le livre comme opus mechanicum, comme objet matériel qui résulte du travail de l'atelier d'imprimerie. Et cette double nature du livre chrétienne avec la métaphore de l'âme et du corps, philosophique et juridique avec la distinction, mais une distinction qui montre leur inséparabilité entre le livre comme discours et le livre comme objet, est une donnée essentielle à la fois pour la perception de la circulation des textes, mais aussi, au moins à partir du XVIIIe siècle, comme un support pour la définition de la propriété littéraire, puisque si le livre comme objet appartient à celui qui l'a acquis, le livre comme discours appartient à celui qui l'a produit. Et donc, du coup, cette double nature qui est était l'objet même de la réflexion de Kant. Comment un même objet pouvait être pris par deux définitions de la propriété, celle sur les objets et celle sur les discours. Donc, au-delà de l'évidence empirique selon laquelle une œuvre, un texte, est toujours reçu par des lecteurs dans une forme matérielle particulière, ça peut être une édition d'une œuvre ou un exemplaire d'une édition d'une œuvre, puisque, comme on le sait, entre le XVIe et XVIIIe siècle, il peut exister, du fait de la technique de l'imprimerie avant l'industrialisation de l'imprimerie, des variantes entre les exemplaires d'une même édition, si on a décidé de corriger les formes à partir desquelles le texte est imprimé en cours de tirage. Mais ça peut être aussi, évidemment, une forme matérielle donnée par une copie manuscrite, ou encore un imprimé qui n'est pas un livre, et qui peut appartenir à cette très large gamme d'objets imprimés que sont pamphlets, libelles, placards, etc., et qui ne sont pas des livres au sens plein, mais ces objets imprimés qui ont alimenté d'ailleurs une circulation plus populaire des textes. Donc on a cette évidence empirique. Un texte est toujours porté par une forme, par un objet qui le donne à lire ou par une voix qui le donne à entendre. Mais au-delà de cette évidence, je crois que une réflexion qui a été poursuivie dans cette perspective de travail, c'est l'idée que ces formes matérielles ne sont pas des contenants inertes, ne sont pas simplement un véhicule qui transmettrait le texte pour une opération de construction du sens qui serait liée qu'au rapport entre le lecteur et ce qu'il lit, c'est-à-dire une production de la signification, qui serait purement liée avec les dispositifs du texte. En fait, ces formes matérielles importent dans la construction de la signification. Elles jouent un rôle fondamental dans la manière dont un lecteur ou une communauté de lecteurs va comprendre, interpréter, s'emparer d'une œuvre. Les exemples seraient multiples pour le démontrer. Un exemple particulièrement spectaculaire est évidemment l'exemple du roman au XIXe siècle, puisque, en dehors même de la période qui est la mienne pour mon travail, mais au XIXe siècle, vous avez une série extrêmement étendue de formes de publication du même, entre guillemets, texte. Le roman apparaît d'abord sous la forme du feuilleton régulier dans le journal. Il peut prendre la forme d'une publication par livraison. Il peut être publié ensuite sous forme d'un livre. Mais le livre peut être ou bien un livre dans lequel plusieurs textes sont réunis de différents auteurs, mais unis par leur genre. Ou il peut rentrer dans les œuvres, complètes ou non, d'un même auteur, sans oublier même que dans la circulation du livre, lorsque les éditions visent une lecture particulière, par exemple celle des cabinets de lecture, le même roman peut être divisé en différentes parties de façon à ce que ces différentes parties puissent être louées à des lecteurs différents dans le même temps. On voit donc un exemple paroxystique de cette idée qu'avait énoncé Donald Mackenzie, les formes affectent le sens. Les formes matérielles de la publication affectent le sens de l'œuvre esthétique ou philosophique ou politique. On a donc là un lien nécessaire, me semble-t-il, entre des disciplines qui est un lien souvent oublié, puisque, évidemment, elle suppose, cette approche, une entrée dans les textes, et donc de mobiliser les arguments d'une critique esthétique, rhétorique, poétique, mais qu'elle suppose aussi l'attention donnée à ce qui relèverait de la discipline qu'on appellerait histoire du livre, avec ses racines les plus scientifiques qui seraient la bibliographie matérielle, donc une description et une analyse rigoureuse des formes d'inscription des textes et de leurs dispositifs. Et elle relève aussi de ce qu'on pourrait appeler une sociologie historique de l'appropriation, c'est-à-dire une histoire des lectures et des lecteurs. Et ce sont ces trois éléments qui correspondent à trois types de démarches d'analyse, mais qui doivent confluer dans l'analyse de tout texte ou de tout livre ou de toute lecture, qui me paraît définir le programme que l'on essaye, pas seulement ici et pas seulement moi, mais que l'on essaye de développer pour donner une compréhension plus dense, plus aiguë, plus complète de ce qu'ont été les significations attribuées à des œuvres que nous avons reçues. Pour certaines, elles font partie du répertoire canonique, d'autres non, mais pour essayer historiquement de retrouver quelles ont été leurs significations, non pour nous, mais pour leurs lecteurs et lectrices ou leurs auditeurs et auditrices de la première modernité. Là, c'est le premier refus qui ne vous surprendra pas, puisqu'il était, comme aussi là encore, une base continue, une trame de fond pour les travaux, les analyses, les études qui ont été menées ici. Le deuxième refus, c'est un refus contre l'anachronisme. C'était ce que Lucien Febvre appelait le péché capital de l'historien. J'entends par là l'anachronisme qui est produit par deux manières de penser le rapport au texte. La première manière, c'est d'oublier que des œuvres qui pour nous peuvent être mises l'une à côté de l'autre dans un répertoire canonique, à commencer par le répertoire scolaire, ont été pensées, produites, circulées, reçues dans des espaces, des lieux, des conditions extrêmement différentes les unes des autres. Et que la condition de la construction de ce canon dans lequel les œuvres sont mises ensemble peut parfois faire oublier la profonde discordance qui a régi leurs conditions de possibilité. Je veux dire par là que les disciplines contemporaines ont souvent développé, par rapport à la construction de ce canon d'œuvres classiques, des approches qui ont pu être celles, par exemple, dans la littérature des comparaisons. On peut évidemment comparer Shakespeare et Cervantes. Toute la difficulté venant du fait que non seulement les œuvres sont produites dans deux mondes sociaux et politiques différents, mais qu'aussi aucun lecteur ou aucun spectateur du XVIIe ou du siècle n'aurait eu la possibilité même de faire cette comparaison, étant donné que si les œuvres de Cervantes, on va y revenir aujourd'hui, ont connu une circulation européenne immédiate après la publication, soit de Quichotte, soit des novelas ejemplares, soit d'un livre bien oublié, magnifique, qui est les travaux de Persilès et Sigismonda. En revanche, le théâtre élisabéthain, y compris Shakespeare, est totalement inconnu du continent, et comme vous le savez, ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'on voit les premières traductions de Shakespeare en français, des traductions d'ailleurs qui s'en emparent pour lui donner la forme de la tragédie classique. Et du coup, dans les autres pays européens, où souvent les traductions de Shakespeare ont été des traductions de la traduction française. Donc, cette comparaison peut être esthétiquement valide pour nous, est historiquement absurde. Le même type d'anachronisme est produit encore plus fortement, je pense, dans l'histoire des théories politiques, où l'on peut effectivement les rassembler dans un corpus unique et d'en comparer les dispositifs internes, en perdant de vue la profonde discontinuité historique qui les fait produire, ou c'est évidemment ce qu'a l'histoire de la philosophie, lorsqu'on rassemble dans un même corpus, comme si dialoguaient directement Platon, Descartes, Kant ou Hegel, là aussi, avec le risque de la perte de perception, de la profonde discontinuité de ce qu'est philosopher dans différentes sociétés, en Grèce, dans la France classique, dans l'université allemande du XIXe siècle, et en perdant aussi de point de vue qui est ce qui, dans la tradition de l'histoire de la philosophie, pouvait être connu par un auteur donné en un moment donné, et qui n'était pas nécessairement ce qu'un philosophe ou un historien de la philosophie aujourd'hui sait de cet auteur. Un exemple sur lequel on pourrait revenir pour montrer que ces risques de la distorsion du regard serait un exemple qui aujourd'hui est important puisque c'est le troisième centenaire de sa naissance, c'est l'exemple de Diderot. Il n'y a pas d'auteur peut-être du XVIIIe siècle pour lequel l'écart est le plus violent entre notre Diderot, c'est-à-dire les œuvres classiques, Jacques le Fataliste, Le Neveu de Rameau, Le Rêve d'Alembert, et puis Diderot, les salons, forme d'élaboration de la critique picturale, et puis le Diderot des contemporains du XVIIIe siècle avant sa mort, dont pratiquement aucun n'avait lu quelques textes que ce soit de ce corpus, puisque certains n'avaient jamais été publiés sous aucune forme, comme par exemple Le Neveu de Rameau, et les autres, les salons, Jacques le Fataliste, Le Rêve de D'Alembert et beaucoup d'autres œuvres ont circulé seulement dans la forme d'une publication manuscrite qui était la correspondance littéraire et qui avait moins d'une vingtaine d'abonnés, tous princiers ou aristocrates, et en particulier dans l'Europe centrale, au cours du XVIIIe siècle. Ce qui fait que l'écart est radical entre leur Diderot et notre Diderot. C'est un point extrême, mais qui doit mettre en garde, à mon avis, contre non pas le fait qu'il existe des répertoires canoniques, toute société les produit, pour l'enseignement, pour l'édition, pour la critique, mais de mettre clairement au centre de cette interrogation les discontinuités historiques qui sont préalables à cette constitution d'un canon homogène. Ce qui doit être restitué, du coup, c'est évidemment deux choses. D'une part, les conditions de production ou de publication des textes en leur temps. Et du coup, on peut porter à la fois l'attention sur le lieu social, politique, intellectuel, où sont produits ces discours. Si on pense à l'histoire, par exemple, la discontinuité radicale entre la production de l'histoire pour les fins de la cité grecque, la production d'un discours d'histoire dans les monastères médiévaux, la production d'un discours d'histoire dans les cours et au service des princes au XVIe ou au XVIIe siècle, la production d'histoire dans la République des lettres qui se met en place à la fin du XVIIe siècle avec ses exigences érudites, philologie, numismatique, et puis la production d'histoire dans un cadre professionnalisé qui est celui de l'université, en particulier à partir du XIXe siècle. On a toujours affaire à de l'histoire, un discours sur le passé, mais la première précaution avant d'analyser les ressemblances ou les différences entre ces formes du discours d'histoire, c'est de les relocaliser à l'intérieur des exigences, des attentes, des contraintes qui ont été celles du lieu de leur production. Et une autre analyse plus difficile, mais c'est évidemment les effets produits sur la compréhension de textes que l'on peut rassembler aujourd'hui parce que, par exemple, ils sont dans des formes d'anthologie ou des formes de manuels ou d'œuvres complètes, alors même que leurs conditions matérielles de circulation ont été extrêmement différentes. Je pense que la rupture existe entre le monde du manuscrit et le monde de l'imprimé, produisant des effets de circulation ou d'appropriation différents. Mais la rupture existerait encore plus, en dehors évidemment de mon domaine, mais par exemple pour l'histoire de la philosophie, entre la circulation des textes de la philosophie antique que nous lisons aujourd'hui dans la Pléiade ou face à l'écran de l'ordinateur et qui ont circulé pour leurs lecteurs et leurs auteurs dans une forme d'inscription matérielle qui était celle des rouleaux de l'Antiquité qui souvent amène à la fragmentation d'une même œuvre entre plusieurs rouleaux, alors que les mêmes, entre guillemets, œuvres entrant dans le monde de ce livre-là, du Codex, d'abord avec les manuscrits médiévaux qui récupèrent les œuvres de l'Antiquité, et ensuite avec les éditions imprimées, jusqu'aux nôtres, créent une relation avec le texte tout à fait différent. Puis, par exemple, le Codex peut recevoir plusieurs œuvres. Alors, comme je le disais, une même œuvre peut être ou doit être distribuée entre plusieurs rouleaux. Toutes ces dimensions-là ont évidemment été souvent érasées, supprimées par une histoire qui va au texte directement et qui les constitue dans un répertoire canonique qui est celui du temps du présent. Et un travail d'historien est évidemment d'essayer de restituer les discontinuités historiques présentes avant cette opération. C'est la première raison d'un anachronisme. La deuxième raison, c'est la projection à l'universel de catégories historiquement construites. C'est un thème que l'on a souvent rencontré dans ces dernières années, c'est-à-dire par exemple, puisque la plupart des textes, pas tous, mais que je considère appartiendrait à ce qu'on appelle la littérature, c'est une première interrogation. Qu'est-ce que la littérature? Non pas dans le sens qu'avait donné Sartre à cette question, mais dans le sens de qu'est-ce que la catégorie littérature et quelle est son historicité? Il est tout à fait clair que le terme existe, par exemple en français, depuis le Moyen-Âge, mais pour désigner des ensembles de textes qui n'ont rien à voir avec ce que nous désignons comme littérature. À l'époque médiévale, elle peut désigner les livres en latin par rapport aux livres en vulgaire. À l'époque du XVIIe siècle, si vous ouvrez un dictionnaire, Richelet, Furtière, l'Académie, la littérature, c'est l'érudition, les sciences de l'érudition, la numismatique, la philologie, l'archéologie. Il en reste quelque chose de ce sens lorsque l'on parle de la littérature secondaire qui existe sur un sujet scientifique qui est traité. Mais évidemment, le sens moderne, qui est le sens de couvrir les œuvres de fiction, et donc du coup de s'opposer avec d'autres formes de discours, qui seraient des discours d'accréditation du réel ou sur le réel, n'apparaît qu'à partir du moment où le mot va s'identifier aux belles lettres, c'est-à-dire non seulement lexicalement au cours du XVIIIe siècle, mais conceptuellement, avec une transformation du regard sur ce qu'est une œuvre de fiction, lorsque se lient les uns avec les autres, les catégories de singularité de l'écriture, l'œuvre envoie à l'écrivain qui écrit avec sa pensée, ses sentiments, son expérience, lorsque l'œuvre va se définir comme original, d'où la possibilité de définir une troisième notion, celle de propriété intellectuelle, et son contraire, le plagiat. Donc on voit qu'une cristallisation ou une articulation de ces trois notions, celle de singularité de l'écriture ou d'individualisation de l'écriture, celle d'originalité de l'œuvre, et celle de propriété littéraire au sens que je disais de Kant. L'œuvre appartient, le discours appartient à celui qui l'a produit. Il peut le céder, il peut le transmettre à un libraire-éditeur, mais la propriété première est celle de l'auteur. Ces trois notions qui définissent la littérature et qui se trouvent comme indiquées par l'usage XVIIIe siècle du terme s'opposent terme à terme à des manières d'écrire des fictions, qu'elles soient dans des narrations ou qu'elles soient des pièces de théâtre, auparavant, avant cette invention de la littérature, puisque le paradigme dominant des XVIe, XVIIIe, XVIIe siècles, c'est effectivement très fréquemment l'écriture en collaboration, non seulement pour le genre théâtral, mais pour d'autres genres aussi, par exemple le roman précieux. C'est ensuite l'idée que le modèle dominant, c'est l'imitation à l'intérieur de laquelle on peut introduire de l'invention, mais rien de comparable avec un concept romantique ou pré-romantique de l'originalité liée à l'expérience. Et la propriété, elle est sur les textes, la propriété des libraires ou des imprimeurs-éditeurs. On a donc un régime de production des fictions, romans ou théâtres, qui est opposé terme à terme avec celui qui définit à partir du XVIIIe siècle la littérature. La conséquence de cette observation, c'est évidemment de repérer ce qu'elle implique dans le processus de production des œuvres, avec d'un côté, à la Renaissance, une technique qui est une technique dominante, qui est la technique des lieux communs, c'est-à-dire de ce que l'on doit ou peut réutiliser dans son propre discours. Ça peut être des formules, des sentences, des exemples. Au-delà des lieux communs, ça peut être les histoires qui appartiennent à tout le monde et qui peuvent être constamment réécrites ou re-représentées. Par rapport, cette technique dominante du réemploi à ce qui va définir une esthétique de la littérature, c'est-à-dire l'originalité, originalité qui provient du fait que le texte est écrit avec la singularité irréductible de l'individu, de ses pensées, et surtout de la manière de les lier les unes aux autres, disait Fichte, des sentiments, du cœur, qui est la définition de Diderot, ou de l'expérience. On voit donc qu'il y a là une première conséquence, d'être attentif à ces modèles d'ensemble à l'intérieur desquels les œuvres sont inscrites. Parce que ce que je dis là pour la production, elle vaut aussi pour la réception. Et le lecteur de la Renaissance n'a pas les mêmes attentes, les mêmes catégories, les mêmes gestes face, dans son processus de lecture, que le lecteur du XVIIIe ou du XIXe siècle. La deuxième conséquence est évidemment une conséquence difficile, puisque à la fois nous utilisons des mots d'une manière transhistorique. On peut parler de littérature romaine, de littérature grecque, de littérature médiévale, de littérature de la Renaissance. Il y a donc une transhistoricité d'une catégorie qui pourtant a été fondée, formulée, inventée dans une historicité particulière. Et c'est là un défi pour l'analyse ou pour la communication, c'est-à-dire utiliser des mots en sachant qu'ils sont anachroniques, mais que comme ce sont les nôtres, comme ce sont ceux qui ont construit ou construisent notre patrimoine intellectuel, analytique, interprétatif, on ne peut pas les gommer, les supprimer, leur échapper. C'était une question, évidemment, comme vous le savez, qui était une question au cœur de tout le travail de Michel Foucault. C'est-à-dire, d'un côté, d'utiliser des catégories d'une manière transhistorique, histoire de la folie, histoire de la clinique, histoire de la sexualité, y compris pour désigner des formes, soit des configurations intellectuelles, soit des configurations institutionnelles, qui étaient préalables à la définition de cette catégorie comme concept. Que faire avec des fous avant la folie, ou avec du sexe avant la sexualité, ou avec des traitements thérapeutiques avant la clinique. Et donc, du coup, la tension entre la catégorie portée à l'universel et la reconnaissance de sa naissance, un mot qu'aimait beaucoup Foucault, qui apparaît dans beaucoup de sous-titres de ses livres, est une tension que nous répétons évidemment chaque jour. D'où, pour conclure ce premier point de mon introduction, la perspective propre qu'on peut essayer de tenir dans cette étude des textes sans frontières, c'est-à-dire de porter toujours attention à la matérialité dans laquelle ils sont inscrits et à l'historicité des pratiques, des catégories qui ont gouverné à la fois leur écriture et leur lecture. Et évidemment, la tension est maximale lorsqu'il s'agit de textes qui ont connu plusieurs vies, qui ont traversé, comme je le disais, les frontières, ce qui veut dire qu'ils ont pu se déplacer d'une langue à l'autre, ce qui veut dire qu'ils ont pu se déplacer ou être déplacés d'un genre à un autre, et enfin qu'ils ont été déplacés d'un lieu à un autre. À partir de ces trois déplacements, de la langue, du genre et du lieu, évidemment, on peut avoir une attention toute particulière à ce que ces déplacements impliquent comme reconfiguration conceptuelle ou comme transformation matérielle. Alors, l'approche de cette année est une approche un peu sous une catégorie qu'aimait employer Pierre Bourdieu, qui est la catégorie de reprise. C'est-à-dire que m'a beaucoup frappé le fait qu'il existe toujours un écart entre ce qu'exige finalement une conférence ou un cours ou un livre, c'est-à-dire de donner un état fixé d'une question en un moment donné, et donc du coup de fixer, de figer, d'arrêter. Et de l'autre côté, évidemment, la recherche, soit la recherche personnelle de celui qui a écrit ce livre, donné un cours ou fait une conférence, mais plus généralement la recherche collective des communautés savantes est constamment en mouvement, mobile, transformant et les questions et les réponses. Et du coup, le processus de construction du savoir est un processus soit à l'échelle de la communauté de savoir, soit à l'échelle de l'individu singulier, est constamment un processus de correction, de révision, de réinterprétation de ce qui a pu être un moment, comme je dirais paradoxalement, temporairement définitif. Et je crois que cette tension entre la nécessité de fixer et d'autre part une autre nécessité qui est celle de se mouvoir dans des enquêtes, des recherches, des lectures nouvelles, fait à la fois peut-être la beauté de l'exercice intellectuel, mais évidemment fait aussi cette interrogation sur comment la surmonter. Et de là l'idée qu'avait, le mot qu'emploie Bourdieu une fois dans un entretien, c'est l'idée de cette reprise. On reprend quelque chose que l'on a déjà pris, mais que l'on va transformer, modifier en fonction de son propre parcours, mais aussi en fonction de ses lectures, de ce qui a pu être écrit sur le même sujet. Alors deux exemples, parce que je vais les reprendre dans ce cours. L'année dernière, pour ceux qui étaient là, et se souviennent peut-être, j'avais consacré une série de cours à ce texte fondamental pour la construction de la légende noire de l'Espagne du siècle d'or, c'est-à-dire le texte de Las Casas, La destruction des Indes, un texte qu'il publie en 1552. Et ça avait été l'objet du cours de l'an dernier, en particulier pour l'analyse des conditions historiques de l'écriture de ce texte par Bartolomé de Las Casas, et puis des premières appropriations du texte, non plus pour dénoncer auprès du souverain espagnol les atrocités commises par les conquistadors dans le Nouveau Monde, mais réappropriées par le monde protestant, comme un texte qui, dénonçant les Espagnols, montrant les dangers ou les risques qui pouvaient peser sur les nations protestantes, soit l'Angleterre menacée par l'Espagne, soit plus encore les Provinces Unies, les protestants hollandais menacés après leur sécession à l'intérieur des Pays-Bas espagnols. C'était un état fixé, finalement, de cette recherche. Comme j'ai pu le faire du fait que, pour une partie de l'année, j'enseigne à l'Université de Philadelphie, je pense que c'était un état peut-être fixé, mais tronqué, dans la mesure où on peut suivre cette histoire de ce texte si important pour la légende noire de l'espagnol tyrannique, cruel, barbare, destructeur de peuples entiers. On peut le suivre à d'autres appropriations, pas seulement les premières appropriations protestantes avec la traduction du texte en hollandais, en français et en anglais, mais à travers tout le XVIIe et le XVIIIe jusqu'au début du XIXe siècle pour suivre les différentes manières à travers lesquelles la figure de l'Indien victime, martyr, dans le texte de Las Casas, peut être toujours réemployée par ceux qui sont menacés par l'Espagne et du coup devient une figure à la fois de dénonciation et de mobilisation. Cela étant possible pour moi parce que à l'université de Pennsylvanie, il y a une bibliothèque dans laquelle se trouvent les premières éditions de toutes les traductions de Las Casas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les premières traductions ou des retraductions, point que j'évoquerai tout à l'heure. Et donc on peut suivre, constituer une série d'appropriation de ce texte qui va bien au-delà de celle que j'avais présentée l'an dernier et qui aboutit à cette situation paradoxale du début du XIXe siècle lorsque les défenseurs des indépendances des anciennes colonies d'Amérique espagnole vont réutiliser paradoxalement ce texte, paradoxalement puisqu'évidemment c'est le texte qui dénonçait leurs ancêtres et les conquistadors au nom d'une identité propre, celle des criollos, celle de ceux qui sont nés dans les Andes, c'est-à-dire les Amériques, Mexique, Pérou, contre la métropole. On voit un exemple là où la reprise a été une reprise de la recherche qui l'a poursuit, qui l'a fait aller dans des directions peut-être inattendues, avec des éditions italiennes du XVIIe siècle, des éditions françaises du XVIIIe siècle, qui n'ont plus rien à voir avec la traduction protestante des années 1570. Donc c'est un exemple d'une reprise. J'essaierai de le démontrer en revenant sur l'histoire longue de ce texte fondamental qui est le texte de Bartolomé de Las Casas. Entre parenthèses, pour ceux qui me connaissent le savent, mais je ne suis pas hispaniste, mais en même temps, je pense que d'une part, il y a une tradition très forte dans cette maison qui a été interrompu des études sur l'Espagne du siècle d'or ou sur les colonies espagnoles et portugaises d'Amérique, qui étaient incarnées par la grande figure de Marcel Bataillon. Et je crois que l'on doit, et c'est peut-être aussi ce que pense mon collègue Carlo Rossola, d'assurer une sorte de continuité à cette inspiration qui a été si fortement marquée ici par l'œuvre magistrale de Bataillon, à la fois sur Erasme et l'Espagne, et puis sur, justement, des études sur Las Casas, et d'autre part aussi parce que je pense qu'on a souvent minoré l'importance de l'Europe espagnole, si je peux dire, pour le pire, à travers la légende noire et la crainte, ou que pour le meilleur, à travers la circulation de tous les genres littéraires inventés dans l'Espagne du siècle d'or, le picaresque, Don Quichotte, la comédia, et qu'il y avait, d'autre part, c'était mon point de départ, une connaissance très profonde de la langue espagnole dans toutes les élites et au-delà des élites de la première modernité. Et je crois que l'on a souvent sous-estimé cette dimension, et c'est une deuxième raison, non seulement de révérence par rapport à l'œuvre de Bataillon, mais aussi de réalité historique objective, pour réintroduire largement cette présence hispanique. Un autre exemple de reprise que je voudrais illustrer, c'était en rapport avec les tout premiers cours donnés ici dans les années 2007-2008, 2008-2009, et qui sont devenus un livre, et qui étaient c'était des cours sur une pièce perdue de Shakespeare et Fletcher, mais dont l'intrigue est une intrigue extraite du Quichotte, qui a pour titre Cardenio. Donc ça a été une série de cours ici, une série de conférences ou d'articles, et finalement un livre publié en 2011 et qui maintenant existe aussi en traduit en espagnol, portugais, anglais. Mais la recherche sur cette question fascinante de Shakespeare s'emparant de fragments du Quichotte pour en faire une pièce de théâtre, et d'autant plus fascinant que la pièce n'a jamais été publiée au XVIIe siècle, ni connue sous la forme de quelques manuscrits que ce soit. Donc cette rencontre renvoyant à une absence. Le travail, la recherche sur cette question n'a pas cessé à partir du moment où mon livre a été publié. Et donc, du coup, ce qui me paraît important, c'est d'essayer de comprendre, y compris pour une dimension critique que l'on doit appliquer toujours à soi-même, comment les travaux qui ont pris la forme de deux livres collectifs autour de la question de Cardenio, l'un déjà publié en 2012, l'autre sera publié incessamment, puisque la date annoncée est 2013, et non seulement des livres qui rassemblent des études, par exemple sur la collaboration entre Shakespeare et Fletcher, par exemple sur la circulation du Quichotte dans l'Angleterre du début du XVIIe siècle, l'établissement même d'un certain nombre de faits pour essayer de comprendre pourquoi cette pièce n'a jamais été ni publiée, n'a jamais été publiée au XVIIe ou au XVIIIe siècle dans aucun des œuvres ni de Fletcher ni de Shakespeare. Tout cela a donné lieu à des enquêtes, des retravaux, des recherches parallèles, dont je crois qu'il serait bon de rendre compte ici, ne fût-ce que pour nuancer, corriger, transformer certaines des perspectives que j'avais pu exprimer dès les premiers cours ici sur cette question. Donc présenter un état de la question. Donc voilà ce que je voulais dire en termes de propos généraux de façon à renouer des fils interrompus ou peut-être jamais connus, c'est-à-dire quelle est la perspective méthodologique ou théorique qui sous-tend les études présentées dans ces cours. Alors, pour commencer l'analyse de cette question de texte sans frontières, je pense qu'il est ce qui est important, nécessaire, c'est de croiser deux formes d'approche spatiale des textes. Une pouvant être celle de la géographie assez classique des livres, de leur publication, de leur circulation, et l'autre portant l'attention sur la géographie ou les espaces dans les livres eux-mêmes, c'est-à-dire la question de l'espace incorporé dans l'écriture de la fiction, alors que la première question est évidemment une question quant à les formes de ce qui ont été les espaces du livre. Et je commencerai par là, c'est-à-dire de poser une réflexion un peu historiographique qui permet de faire des retours sur des œuvres qui nous servent toujours de point d'appui, de support, sur ce que j'ai appelé les espaces du livre. Parce que l'histoire du livre, mais comme toutes les histoires, a été confrontée à la question qui est celle du découpage, de la délimitation du cadre territorial dans lequel les objets qu'elle étudie sont placés. C'est une question qui, évidemment, a été, dans ces dernières années, d'une manière générale pour l'histoire, posée avec particulière vivacité lorsque, d'un côté, ont été proposées des approches micro-historiques, c'est-à-dire qui réduisaient l'échelle de l'observation, de façon peut-être à observer des phénomènes que l'on ne voit pas lorsque l'observation se situe à une échelle plus vaste, par exemple l'histoire d'une ville, l'histoire d'une région, l'histoire d'un pays, comme on disait dans la langue ancienne, et d'autre part, pratiquement opposé, sinon théoriquement, mais enfin historiographiquement à cette approche, les approches qui sont celles d'une histoire que l'on appelle maintenant globale, avec ses différentes formes, c'est-à-dire une histoire qui ouvre les espaces, qui ouvrent les échelles de l'analyse historique. Et donc, du coup, la question de quel est l'espace ou l'échelle la plus pertinente pour l'enquête historique est devenue une question importante pour tout historien, quel que soit le domaine de son travail, sa période d'analyse ou les objets dont il s'empare. Dans le cas de l'histoire du livre, qui s'est constituée comme une discipline dans la discipline, en particulier, au moins en France, à partir du... Pas seulement en France, d'ailleurs, mais d'abord en France, à partir du livre fameux de 1958 de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L'apparition du livre. la même question s'est posée et se pose. Et on peut peut-être commencer par une analyse historiographique et rétrospective de ces espaces du livre, et donc du coup de l'histoire du livre, pour comprendre pourquoi la question des franchissements des frontières, des études de textes sans frontières, prend la pertinence qu'elle a aujourd'hui. Et donc c'est une première réflexion sur le cadre spatial ou les cadres spatiaux qui ont été ou encore sont ceux de l'histoire du livre. Le point de départ le plus immédiat, le plus évident, à la fois parce qu'il est historique et peut-être parce qu'il est aussi contemporain, ça a été que, comme beaucoup d'histoires, l'histoire du livre s'est localisée assez volontiers dans le cadre de l'État-nation. Donc, du coup, des histoires nationales. Ce sont ces histoires nationales où le cadre de l'État-nation est premier, fondamental, ont pu s'emparer d'objets différents. Par exemple, dès la fin du XIXe siècle, dans le cas allemand, entre 1886 et 1913, sont publiés les quatre volumes d'une histoire classique qui est l'histoire de la librairie allemande. C'est le livre de Friedrich Kapp et Johann Goldfriedrich, Geschichte des deutschen Buchhandels, l'histoire de la librairie en Allemagne. Et on voit que là, le cadre national, Deutschen Buchhandels, est le cadre dans lequel se développe l'analyse. C'est un cadre qui a pu être aussi observé, utilisé pour des études qui visaient à reconstruire la totalité d'une production du livre. Et donc, du coup, la production à l'intérieur des frontières d'un État-nation. Dans le cas français, on peut se rappeler ces deux volumes de cette enquête collective qui avait pour titre « Livres et sociétés dans la France du XVIIIe siècle », publié sous la direction de François Furet en 1965 pour le premier livre, en 1970 pour le second. Et puis, plus récemment, se sont multipliées des histoires nationales du livre, en général multivolumes, avec des points de départ qui pouvaient être différents, c'est-à-dire d'un point de départ qui était une histoire de l'édition qui fait tenir ensemble l'histoire de la production des textes du côté littéraire ou philosophique ou politique et la production des livres du côté technique et commercial, ou bien des histoires du livre qui sont des histoires qui partent avec, qui commencent dans leur point de départ avec les objets imprimés ou parfois comme dominante ou comme accompagnement des histoires de la lecture. On a à l'heure actuelle toute une série d'histoires nationales du livre qui ont été construites sur ce modèle d'un travail collectif qui a un point de départ qui peut être défini comme histoire du livre ou histoire de l'édition. La série, on peut le dire, a commencé en 1982-86 avec la publication des quatre volumes de l'histoire de l'édition française qui avait été dirigée par Jean Martin et moi-même. Et à partir de là, on a vu se multiplier des histoires parallèles, parfois plus ambitieuses encore dans le nombre de volumes. Par exemple, en 1999 ont été publiés les premiers volumes de The Cambridge History of the Book in Britain, donc l'histoire du livre en Grande-Bretagne, et dans la même année, A History of the Book in America, en fait, America entendu ici au sens des États-Unis. En 2001, on a les premiers volumes de History of the Book in Australia. En 2003, exception dans ce monde anglo-américain, un volume qui d'ailleurs dans ce cas n'a qu'un seul tome, qui est la Historia de la Edición y de la Lectura en España, un volume collectif, mais reprendre la série des publications dans le monde de langue anglaise, avec en 2004 une History of the Book in Canada, mais qui est aussi une histoire du livre au Canada. C'est une édition bilingue, évidemment, pour respecter les la nature, la dimension bilingue du pays. Et puis, en 2006, une Oxford History of the Irish Book, donc l'Irlande. Donc, vous voyez qu'il y a cette série, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, Canada, Irlande, qui traduit bien ce que ça a pu être la géographie de l'histoire du livre en général, c'est-à-dire le fait que, à la tradition française d'une histoire du livre plus sociale et culturelle, qui était bien représentée par le livre de Martin et Fèvre, je dis ça dans l'ordre, même si Fèvre était le nom le plus prestigieux, mais la plupart des chapitres ont été rédigés par Henri-Jean Martin dans ce livre de 1958, et la tradition anglaise, américaine, australienne, néo-zélandaise, qui est la tradition de l'histoire du livre au sens de la bibliographie matérielle, au sens de protocoles rigoureux et formalisés de description des livres et au sens de la bibliographie au service soit de l'édition des œuvres, soit de la construction de répertoires, de catalogues descriptifs. Dans tous les pays que j'ai mentionnés dans le monde de langue anglaise, cette dimension technique a été débordée, a été jamais oubliée, mais réutilisée au service de perspectives évidemment infiniment plus larges, mais elle explique sans doute ce déséquilibre. La seule autre exception étant, mais une entreprise plus solitaire, en 1993, donc très tôt, un collègue chilien, Bernardo Subercaso, ça s'écrit S-U-B-E-R-C-A-S-E-A-U-X, avait publié une Historia del libro en Chile. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le fait effectivement de cette dominante, puisqu'on ne trouverait pas l'équivalent, même si un certain nombre d'ouvrages s'approchent d'une histoire du livre dans les pays, par exemple, de l'Amérique latine. Ils ne sont pas pour autant ces entreprises en général multivolumes et systématiques. On pourrait penser au cas, par exemple, du Brésil. Et ce qui est intéressant, je vais terminer cette première partie avec cela, c'est le fait que, évidemment, choisir le cadre national pour une histoire des livres pose une série de problèmes. Le premier est évidemment les variations même de ce cadre national. Les États-nations ont connu des sorts historiques extrêmement différents, avec pour le moins des variations de leur frontières, et parfois, comme dans le cas de l'Empire allemand ou des États italiens, une unité nationale tardive de la fin du dernier tiers du XIXe siècle. Il y a donc là un premier problème qui est posé et qui explique sans doute pourquoi une histoire du livre en Italie n'a jamais été projeté dans ce sens-là. On pourrait trouver de nombreux livres qui portent sur des descriptions de l'activité éditoriale ou d'imprimerie dans les États italiens, mais la réalité historique des différentes chronologies de la construction des États-nations en Europe explique aussi une de ces premières différences et de cette difficulté. La deuxième difficulté, elle est un peu liée aussi à mon point de départ, c'est-à-dire la discontinuité qui peut exister entre un État-nation et les espaces ou les aires dans lesquels la langue de cet État-nation est la langue de communication ou la langue de publication. C'est une difficulté que nous avions rencontrée avec l'histoire de l'édition française. Évidemment, on publie beaucoup en français hors de France. Comment traiter cette question de la publication en français hors de France pour différentes raisons, soit parce qu'il s'agit de littérature prohibée pour des raisons religieuses ou des raisons morales depuis le XVIe siècle. On publie en français, bien sûr, en Suisse, dans les principautés allemandes qui ne sont pas nécessairement de langue française, mais où l'édition en français est une activité forte. On publie en français dans les Provinces unies. Donc il y a une publication en français hors de France, soit dans des territoires francophones, soit dans des territoires qui ne le sont pas, mais où publier en français est une activité qui permet de faire circuler des livres qui ne pourraient pas être imprimés en français et qui sont d'ailleurs en général prohibés, ou bien pour une activité purement commerciale qui est celle de la contrefaçon, c'est-à-dire de publier des titres qui ont du succès en violant, puisque l'on est hors des limites du royaume, les privilèges qui ont pu être donnés à tel ou tel libraire-éditeur parisien sur ces titres. Mais cette question-là de la publication du primat donné soit à la langue, ce serait à ce moment-là une histoire de l'édition en langue française, ou donné au cadre politique et administratif du territoire de l'État-nation, histoire de l'édition française en France, est une difficulté qu'on pourrait trouver sur d'autres cas où la tension entre la nation et la langue est tout à fait forte. Une histoire du livre aux États-Unis aujourd'hui ne peut pas ignorer effectivement non seulement la publication en anglais hors des États-Unis qui a pu être dominante, j'en dirais un mot, à l'époque des colonies, mais ne pouvait pas oublier non plus le revers, c'est-à-dire la publication en d'autres langues que la langue nationale à l'intérieur des frontières de l'État-nation. Une troisième difficulté est évidemment le fait que j'emploie l'expression État-nation dans sa constitution du XIXe siècle, où il n'y a pas séparation, mais il y a des nations sans État. Et l'histoire du livre a pu le montrer, puisqu'a commencé plus récemment une Edinburgh History of the Book in Scotland, jusqu'à une date récente, peut-être cela changera, l'Écosse n'est pas une nation, mais n'est pas un État, mais en même temps se définit comme une identité nationale qui justifie une histoire du livre The Book in Scotland qui ne soit pas absorbée dans The History of the Book in Britain, dans la Grande-Bretagne, identifiée plus fondamentalement ici à l'Angleterre. On pourrait dire la même chose avec la Catalogne, où il y a des formes d'histoire du livre en Catalogne qui se séparent, qui s'autonomisent à l'intérieur de l'histoire du livre en Espagne. Et puis la dernière question, mais je la reprendrai, c'est évidemment que faire et comment traiter les colonies qui sont devenues des États nationaux. C'est un problème majeur pour des histoires du livre dans les États-nations d'Amérique latine. Faut-il les commencer avec l'État-nation, l'indépendance ? Faut-il les commencer avec la colonie qui est revendiquée comme évidemment la préhistoire de cet État-nation ? C'est une première difficulté. La deuxième difficulté étant évidemment que dans ces situations, il y a un grand contraste entre les colonies dans lesquelles ont été très tôt implantées des imprimeries et des éditeurs, ce qui est le cas du Mexique dès 1539 à Mexico, ce qui est le cas de Lima, et les situations dans lesquelles l'imprimerie finalement n'apparaît qu'avec l'autonomie ou l'indépendance par rapport à la métropole, ce qui serait le cas du Chili, où c'est en 1811 qu'a été introduite la première imprimerie, ou plus spectaculaire encore, évidemment, le cas du Brésil, où l'imprimerie, l'imprimerie royale, arrive avec la cour de Lisbonne en 1808, lorsqu'est transférée du Portugal dominé par l'empereur, et est transféré au Brésil l'État portugais qui devient finalement identifié, la colonie s'identifiant à une nouvelle métropole. Donc, juste pour conclure là-dessus, c'est-à-dire le fait que le premier cadre que l'on doit discuter et rencontrer, c'est ce cadre de l'État-nation qui s'était imposé à toute l'histoire depuis la fin du XIXe siècle, mais qui, évidemment, dans le cas du livre, qui est à la fois une... C'est un point constant, qui est à la fois une marchandise, c'était une expression de Fèvre et Martin dans leur livre, le livre Sept marchandises, une marchandise qui peut être l'objet de transactions internationales, qui peut être l'objet de contrefaçons et de piraterie, qui peut être liée à la recherche de marchés, et qui donc de toute part met en question le cadre de l'État-nation. Et d'autre part, le livre dans le livre de Ferré Matin, c'était ce ferment, c'est-à-dire le livre porteur d'idées, porteur d'œuvres, qu'il a aussi met en question le cadre de l'État-nation, puisque la langue n'est pas identifiée strictement avec ce cadre, et donc du coup entraîne une nécessité de immédiatement sortir des frontières pour comprendre ce qui rentre dans ces frontières venues de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on peut, et je l'évoquerai dans la deuxième partie, penser aux deux autres cadres qui ont été ceux et qui sont peut-être de plus en plus ceux de l'histoire des livres, c'est-à-dire le cadre qui est plus limité dans son échelle que l'État-nation, toutes les formes d'analyse monographique, ou bien des cadres qui débordent, qui dépassent l'État-nation et qui font entrer dans une histoire qui est une histoire des relations, des connexions, des comparaisons. Mais comme je l'avais promis, on fait toujours une petite pause de 5 minutes de façon à reprendre esprit et souffle. Et donc on peut reprendre, il est 5 vers, non, oui, un peu après 10, 12.